Chapitre 12. Une bonne affaire. Le bain ne se fit pas trop désirer, même si Elaine dut attendre un bon moment devant sa porte sculptée d'un lion, pendant que Rasoria et deux gardes royales passaient au peigne fin ses appartements. Quand il fut établi qu'aucun assassin ne s'y cachait, les gardes étant postés dans l'antichambre et dans le couloir, la fille héritière entra enfin et gagna la chambre où Essand, une gouvernante blanchie sous le harnais, attendait avec Naris et Séphanie, les deux jeunes servantes dont elle assurait la formation. Le lys d'or d'Elaine brodé sur la poitrine, et Sandé, encore d'une minceur de liane, frappait par la dignité visible dans chacun de ses mouvements. Une raideur qui devait peut-être beaucoup à l'âge et à ses articulations grippées, même si elle refusait de l'admettre. Sœurs mais pas jumelles, Naris et Séphanie, le visage encore poupon, rayonnaient dans leur livrée. Contentes de leur affectation, 100 fois préférable à briquer les couloirs, elles béaient d'admiration devant Elaine et tout autant devant Essandé. Au palais, on trouvait des dames de compagnie plus expérimentées, certaines avec des décennies de service, mais si déprimant que ce fût, deux jeunes femmes récemment venues chercher du travail étaient beaucoup plus fiables. Sur le sol d'où on avait retiré un tapis, roulé dans un coin, deux baignoires en cuivre reposaient sur d'épais tapis de bain. La preuve que l'arrivée d'Elaine était attendue depuis un moment. Au palais, les domestiques savaient toujours en avance ce qui allait arriver, un don que bien des espions auraient pu leur envier. Avec les fenêtres fermées et un bon feu dans la cheminée, il faisait agréablement chaud dans la pièce. Dès qu'Elaine y eut mis un pied, Essandé fit signe à Séphanie d'aller chercher les hommes chargés d'apporter l'eau chaude. Afin qu'elle ne refroidisse pas en chemin, celle-ci serait transportée dans des seaux à double cloison fermés par un couvercle. Même en vérifiant qu'on n'avait rien caché dedans, les gardes royales ne réussiraient pas à retarder la livraison au point que le bain soit froid. Avienda lorgna la seconde baignoire avec une méfiance que manifestait aussi Essandé. Mais c'était Birgit que visait la vieille dame de compagnie, outrée qu'une personne inutile assiste au bain royal. Malgré cette réticence, Essandé fut prompte à pousser Elaine et Avienda dans la pièce adjacente, où un autre feu, dans une cheminée de marbre, luttait avec succès contre le froid. Elaine accepta avec plaisir l'aide d'Essandé quand il s'agit de retirer sa robe d'équitation. Pour une fois, elle avait devant elle autre chose qu'un bain pris à la hâte dans une chambre inconnue, suivie d'une courte pause avant de partir pour sa prochaine destination. Des affaires sérieuses l'attendaient, certes, mais elle était chez elle, et ça changeait tout. Au point d'oublier le phare qui brillait follement à l'ouest? Presque. Enfin, pas du tout, en réalité. Mais elle pouvait au moins cesser un instant de s'inquiéter. Moins docile, Avienda chassa plusieurs fois les mains de Naris et se chargea de retirer elle-même ses bijoux. Faisant comme si la servante n'existait pas, elle parvint à donner l'impression que ses vêtements s'étaient retirés tout seuls. Tandis qu'on la drapait d'une robe de chambre en soie, elle tenta à 3 reprises de nouer une serviette blanche autour de ses cheveux. Après des échecs retentissants, elle accepta les bons offices de Naris, en maugréant qu'il lui faudrait bientôt quelqu'un pour lacer ses bottes. Devant ce spectacle, Elaine éclata de rire. Comme de juste, sa première sœur l'imita, renversa la tête en arrière et força Naris à tout recommencer. Du coup, quand les deux jeunes femmes revinrent dans la chambre, les baignoires étaient pleines, une bonne odeur d'huile essentielle de rose embaumant l'atmosphère. Les porteurs d'eau sortis, Séphanie attendait, les manches remontées au cas où on lui demanderait de frotter l'un ou l'autre dos. Assise sur un coffre incrusté de turquoise, les coudes sur les genoux, Birgit cuvait stoïquement sa gnôle. Dès qu'Essandé l'eut débarrassée de sa robe de chambre, Elaine entra dans la baignoire et s'immergea jusqu'au cou dans une eau légèrement trop chaude. Les jambes pliées, ses genoux pointaient à l'air libre, mais tout le reste de son corps se réchauffa agréablement. La plus grande conquête de la civilisation, tout compte fait, c'était peut-être bien l'eau chaude. Un regard soupçonneux rivé sur la seconde baignoire, Avienda sursauta quand Naris voulut lui retirer sa robe de chambre couleur lavande aux manches brodées de motifs floraux. Avec une grimace, elle finit par se laisser faire, puis entra dans l'eau. Arrachant à Séphanie le savon qu'elle brandissait, elle entreprit de se récurer vigoureusement, mais en prenant soin de ne pas renverser une goutte d'eau. Quand elle se lavait dans les tentes étuves, les aïels utilisaient l'eau pour rincer le shampoing fabriqué à partir d'une plante grasse qu'on trouvait exclusivement dans le désert. Mais l'eau usée, soigneusement conservée, servait à arroser les rares plantations. Peu après leur arrivée à Kemlin, Elaine avait montré à sa première sœur deux des énormes citernes alimentées par des rivières souterraines. De quoi ne pas redouter la sécheresse, mais les réflexes acquis dans son désert collaient à la peau d'Avienda. Sous l'œil des approbateurs des Sunday, très peu loquace, elle estimait que le bain n'était pas une occasion de jacasser, Birgit fit la conversation à ses deux amis. En prenant garde à ce qu'elle disait, eut égard à la présence de Naris et Stéphanie. S'il semblait peu probable qu'elle soit à la solde d'une autre maison, les servantes se révélaient presque aussi bavardes que les hommes. Une tradition, aurait-on dit. Cela posé, certaines rumeurs gagnaient à être répandues. Pour l'essentiel, Birgit parla des deux énormes caravanes de marchands arrivées la veille de Théar, avec des chariots chargés de céréales et de bœuf salé, et de celles venues de Liliane, avec d'énormes quantités d'huile, de sel et de poissons fumés. Rappeler aux gens que la ville continuait à recevoir des montagnes de nourriture ne pouvait pas faire de mal. En hiver, peu de marchands s'aventuraient sur les routes andoriennes, et certainement pas pour y apporter des denrées périssables. Arimilla pourrait donc intercepter toutes les caravanes qu'elle voudrait, sans remplir pour autant le ventre de ses hommes. Pendant ce temps, grâce au portail, à Kemlin, les estomacs resteraient agréablement pleins. Responsables de la plupart de ces portails, les régentes des vents rapportaient que le haut seigneur Darlin, soi-disant régent de Théar au nom du dragon réincarné, était assiégé dans la pierre de Théar, par des nobles qui entendaient chasser Rand du royaume. Même s'ils y parvenaient, ça ne les inciterait pas à mettre un terme au commerce du grain, puisqu'ils pensaient que les femmes de la famille associées aux Atta Admiré étaient des Aes Sedai. Dans cette affaire, il n'y avait aucune intention de les tromper. Simplement, on avait fabriqué des bagues aux serpents pour les femmes qui avaient été promues acceptées avant d'être renvoyées de la Tour Blanche. Si certains individus en tiraient des conclusions erronées, ils ne pourraient accuser personne. Si elle traînait encore, s'avisa Elaine, l'eau aurait trop refroidi. Prenant le savon à la rose que lui tendait Stéphanie, elle autorisa Naris à lui frotter le dos avec une brosse à longs manches. S'il y avait eu des nouvelles de Gawain ou de Galad, Birgit n'aurait pas manqué de les rapporter. Aussi anxieuse qu'Elaine d'en avoir, elle n'aurait pas pu se retenir. Le retour de Gawain comptait parmi les rumeurs à répéter sans retenue. Au poste de capitaine général, Birgit faisait des merveilles, et la fille héritière comptait bien qu'elle continue, s'il était humainement possible de l'en convaincre. Mais la présence de Gawain leur permettrait à toutes les deux de se détendre un peu. En ville, la plupart des soldats étaient des mercenaires, juste assez nombreux pour garder les portes et faire illusion sur le très long chemin de garde de la nouvelle cité. En tout, cela faisait plus de 30 compagnies, chacune commandée par un capitaine bouffi d'orgueil, dévoré d'ambition, et toujours prêt à accuser ses collègues de déloyauté. Toute sa vie, Gawain s'était entraîné au commandement. Il se chargerait des conflits de personnes, laissant à Elaine tout loisir de conquérir le trône. Au-delà de ça, la fille héritière voulait voir Gawain aussi loin que possible de la Tour Blanche. Avec un peu de chance, un de ses messagers avait pu le joindre, et il était déjà en route pour Kemlin. Depuis une dizaine de jours, Egwene et son armée assiégeaient Tarvalon. Pour Gawain, être déchiré entre le serment de défendre la Tour Blanche et son amour pour Egwene serait un coup du sort, d'autant qu'il avait déjà manqué à sa parole une fois, par amour pour sa sœur et peut-être déjà pour Egwene. Si Elaïda se doutait un jour qu'il avait facilité la fuite de Siouan, tout le crédit qu'il avait gagné en aidant à la renverser fondrait comme neige au soleil. S'il n'était pas très loin quand Elaïda découvrirait la vérité, il risquait de croupir en prison, voire de finir sous la hache du bourreau. Elaine n'en voulait pas à son frère d'avoir pris le parti de Laïda. À l'époque, il n'en savait pas assez long pour faire un autre choix. Pas mal de sœurs avaient été troublées par les événements, comme lui. Et un grand nombre le restait. Comment demander à Gawain de comprendre ce qui dépassait des Aes Sedai? Quant à Galad, Elaine avait grandi sans réussir à l'aimer, certaine qu'il lui en voulait et qu'il détestait Gawain. Jusqu'à la naissance de leur frère, Galad avait dû croire qu'il serait un jour le premier prince de l'épée. Dans ses souvenirs les plus lointains, Elaine le voyait comme un garçon, non, un jeune homme, qui se comportait plus comme un père ou un oncle que comme un frère. Par exemple, il avait donné à Gawain ses premières leçons d'escrime, son ardeur faisant craindre qu'il fracasse le crâne de l'enfant avec la lame d'entraînement. Mais Gawain n'avait jamais récolté autre chose que les orions normaux quand on s'engageait dans la pratique des armes. Toujours sûr de savoir ce qui était juste, Galad entendait agir en conséquence, sans se soucier du prix que ça pouvait coûter aux autres et à lui-même. Par la lumière, il avait déclenché une guerre pour permettre à Elaine et Nineveh de fuir Samara, et il connaissait les risques dès la première minute. Pour Nineveh, il avait un faible, ou il en avait eu un, maintenant qu'il portait une cape blanche quelque part en ce monde, exécutant on ne savait quelle mission. Mais en toute franchise, il avait surtout voulu secourir Elaine. De quoi lui pardonner d'être devenu un fils de la lumière? Sûrement pas. Pourtant, même s'il ne l'aimait toujours pas, elle espérait qu'il allait bien, et qu'il prendrait lui aussi le chemin de Kemlin. Des nouvelles de lui auraient été une aussi bonne chose que des nouvelles de Gawain. C'était surprenant, certes, mais parfaitement vrai.
« Deux nouvelles sœurs sont arrivées pendant ton absence, » annonça Birgit. « Elles sont descendues au signe d'argent. »
À entendre la championne, on aurait pu croire que les Aes Sedai étaient allées à l'auberge parce qu'il n'y avait plus un seul lit de libre au palais.
« Une sœur verte avec deux champions et une grise avec un seul. Elles sont entrées en ville séparément. Le même jour, une sœur jaune et une marron sont parties. Du coup, le nombre total, 10, n'a pas changé. La sœur jaune s'est orientée vers le sud, en direction de Farmading. La marron a filé vers l'est. »
Debout près de la baignoire d'Avienda, qui n'avait pas besoin de ses services, Stéphanie échangea un regard avec sa sœur et sourit. Comme beaucoup de citadins, les deux servantes pensaient que la présence d'Aes Sedai au signe d'argent prouvait que la Tour Blanche soutenait Elaine et la maison Trakande. Ses yeux d'aigle ne ratant aucun détail, Essandé capta le manège des deux jeunes femmes, hocha la tête et sourit. En ville, le dernier balayeur savait que la Tour Blanche se déchirait de l'intérieur. Même ainsi, ce simple nom restait un symbole de force, de sagesse et d'infaillibilité. De plus, la tour avait toujours soutenu les reines légitimes d'Andorre. Très probablement, les sœurs attendaient avec impatience de voir l'une des leurs monter sur le trône du lion. La première fois que ça se produirait en 1000 ans, et depuis la dislocation du monde, la première fois aussi qu'une sœur serait ouvertement couronnée. Cela dit, Elaine n'aurait pas été surprise qu'une Aes Sedai séjourne en toute discrétion dans le camp d'Arimilla. Sauf quand la course était truquée, la Tour Blanche ne misait jamais tout sur un seul cheval.
« Bon, ça suffit avec la brosse !»
lança soudain Elaine.
« Tu vas finir par m'arracher la peau !»
Docile, Naris posa la brosse sur un tabouret, puis elle tendit à sa maîtresse une serviette éponge ilianienne qui absorberait en totalité le savon. Elaine aurait donné cher pour connaître le pourquoi de cette colonie de sœurs au signe d'argent. Autant de grains de sable dans sa pantoufle, en principe trop petit pour être une gêne, mais qui semblait grossir avec le temps. À force, le signe d'argent et ses clientes donnaient un caillou d'une bonne taille. Depuis qu'Elaine était rentrée à Kemlin, le nombre d'Aes Sedai présentes à l'auberge fluctuait. Chaque semaine, des sœurs partaient et d'autres les remplaçaient. Le siège ne changeait rien à l'affaire. Comme les nobles séditieux, en Théar, les soldats qui encerclaient Kemlin ne s'aventureraient sûrement pas à intercepter des Aes Sedai. À un moment, il y avait même eu en ville des sœurs rouges qui interrogeaient les habitants au sujet d'hommes en chemin pour la Tour Noire. Dépitées par ce qu'elles apprenaient, les deux dernières étaient parties le lendemain de l'arrivée d'Arimilla et de ses troupes. Tout Aes Sedai qui entrait en ville faisait l'objet d'une surveillance serrée. L'absence de contact entre les sœurs rouges et celles du signe d'argent laissait penser que le commando n'était pas là pour enlever Elaine. Sans trop savoir pourquoi, Elaine imaginait que les Aes Sedai, par petits groupes, étaient éparpillés entre la flétrissure et la mer des tempêtes, des sœurs circulant sans cesse entre ces points pour glaner des informations et en communiquer. Une idée bizarre. Pour savoir ce qui se passait dans le monde, les Aes Sedai avaient recours à des espions. Quant aux informations, elles n'étaient pas enclines à les partager, sauf quand une menace pesait sur la tour. Selon toute vraisemblance, les pensionnaires du signe d'argent se recrutaient parmi des sœurs qui restaient loin des troubles de Tarvalon, attendant pour se décider de savoir qui d'Egwen ou Elaïda serait confirmée chère d'Amirlin. C'était un comportement critiquable, car une sœur devait lutter pour son idéal, sans se soucier d'être dans le bon ou le mauvais camp. Mais il gênait Elaine pour une autre raison. Récemment, une des sources de renseignement de la fille héritière, au signe d'argent, avait entendu un nom murmuré par une sœur, avant qu'une autre lui intime le silence, comme par crainte que les murs aient des oreilles. Katswané. Un prénom rare, ça. Et Katswané Melaïdrin avait tissé des liens étroits avec Rand, quand il était à Kyrien. Vanden ne pensait pas grand bien de cette sœur, qu'elle jugeait partiale et entêtée. Mais Kareane s'était presque pâmée en entendant son nom. Celui d'une légende, selon elle. De fait, essayer de traiter seul avec le dragon réincarné était le genre d'exploit que Katswané Melaïdrin pouvait essayer d'accomplir. Quand il s'agissait des rapports entre Rand et une Aes Sedai, Elaine ne se faisait aucun souci. Sauf que cette tête de pioche pouvait offenser Katswané au-delà de l'admissible. Parfois, il était lui aussi partial et entêté, au point de ne plus voir son propre intérêt. Mais pourquoi une sœur, à Kemlin, aura-t-elle parlé de Katswané? Et pourquoi une autre lui aurait-elle ordonné de se taire? Malgré l'eau chaude, Elaine frissonna en pensant aux toiles d'araignée que la Tour Blanche tissait depuis des siècles, avec des fils si fins que seules les sœurs qui se chargeaient du tissage les voyaient, et si embrouillées que personne, à part ces mêmes sœurs, n'aurait su les démêler. La Tour Blanche tissait des toiles, les Aja tissaient des toiles, et même des sœurs isolées en tissaient.
Parfois, ces conspirations se fondaient les unes dans les autres, comme si une main unique les guidait. À d'autres occasions, elles s'entre-déchiraient. La force qui, depuis 3000 ans, donnait sa forme au monde. Aujourd'hui, la Tour Blanche était composée de 3 camps. Un pour Egwen, un pour Elaïda, et un qui restait neutre. Si les 2 dernières coteries entraient en contact et partageaient des informations, ou ourdissaient des plans, les implications... Des éclats de voix dans le couloir ramenèrent Elaine au présent. Tandis qu'elle se redressait dans sa baignoire, Naris et Séphanie, les yeux rivés sur la porte, sursautèrent en couinant d'angoisse.
« Que se passe-t-il dehors ?» grommela Birgit en se levant d'un bond.
En 2 enjambées, elle sortit de la chambre et ferma la porte derrière elle. Les éclats de voix se firent plus forts. Pas comme si les gardes royales se battaient, plutôt comme si elles se querellaient en beuglant à tue-tête. Dans le lien, en plus de la fichue gueule de bois, Elaine sentit de la colère et de la frustration. Du coup, elle jaillit hors de la baignoire et tendit les bras vers Essandé pour qu'elle lui enfile sa robe de chambre. Le calme de la vieille gouvernante, et peut-être celui de la fille héritière, apaisa un peu les 2 jeunes femmes, qui rosirent d'embarras. Bondissant de sa baignoire dans une gerbe d'éclaboussures, Avienda fonça vers la pièce adjacente. Alors qu'Elaine s'attendait à la voir revenir avec son couteau, quand elle se remontra, elle tenait la tortue d'ambre et l'aura du Saïdar l'enveloppait. De sa main libre, elle tendit à Elaine l'angréal, qu'elle conservait dans sa bourse, une antique figurine en ivoire représentant une femme vêtue de ses seuls cheveux. En plus de la serviette autour de sa tête, l'aïeule portait un voile luisant d'humidité. Mais elle repoussa Séphanie qui semblait vouloir lui faire enfiler sa robe de chambre. Couteau ou pas, Avienda tenait à avoir toute sa liberté de mouvement lors d'un combat, quitte à se battre nu comme au jour de sa naissance.
« Rapporte-le à côté !»
dit Elaine en rendant l'angréal à Essandé.
« Avienda, je doute que nous ayons besoin de... »
La porte s'ouvrit en grinçant et Birgit, l'air furieuse, passa la tête dans la chambre. Moins apaisée qu'on aurait pu le croire, Naris et Séphanie couinèrent de nouveau.
« Elaine, Zaïda veut te voir !»
annonça la championne.
« Je lui ai dit d'attendre, mais... »
Déséquilibrée, Birgit entra dans la chambre en titubant, reprit de justesse son équilibre et se retourna pour foudroyer du regard la femme qui venait de la pousser. La maîtresse des vagues du clan Catellar avait l'air innocent de quelqu'un qui n'avait poussé personne. Les extrémités tombantes de sa ceinture de tissu rouge oscillant au-dessus de ses genoux, elle entra d'un pas digne, 2 régentes des vents sur les talons. La dernière referma la porte au nez de Rasoria, qui semblait encore plus enragée que Birgit. La démarche presque aussi ondulante que celle de Birgit, la faute de ses maudites bottes, les 3 atanierées avancèrent. Petite, ses cheveux crépus et brés de gris, Zaïda comptait parmi ces femmes qui deviennent de plus en plus belles avec l'âge. Bizarrement, sa beauté était encore rehaussée par la chaîne d'or laissée de petits médaillons qui reliait une de ses boucles d'oreilles à l'anneau de son nez. Mais ce qui frappait chez elle, c'était l'aura d'autorité. Sans arrogance, mais avec la tranquille certitude d'être obéie. Les régentes regardèrent Avienda, toujours enveloppée de pouvoir. L'expression de Chanel se durcit, et Chieline murmura que Layel était prête à canaliser. À part ça, rien ne se passa. Les 8 petits anneaux aux oreilles de Chieline l'identifiaient comme la régente des vents de la maîtresse des vagues d'un clan. Et la chaîne d'honneur de Chanel arborait presque autant de médaillons que celle de Zaïda. 3 femmes de tête, mais à leur façon de se comporter, inutile de bien connaître les hattes à admirer pour savoir laquelle détenait l'autorité sur les autres.
« Tu as glissé à cause de tes bottes, capitaine général !»
souffla Zaïda avec un petit rire. D'une main tatouée, elle joua avec la boîte à sel en or qui pendait à son cou.
« Avec vos chaussures, il est facile de trébucher. »
Les 3 atanierées étaient pieds nus, comme d'habitude. À force, la plante de leurs pieds devenait aussi dure qu'une semelle, leur permettant d'évoluer sans peine sur le bois des ponts ou le marbre froid des dalles. Bizarrement, en plus de son chemisier et d'un pantalon de soie aux couleurs criardes, chaque femme portait une large étole blanche qui tombait jusqu'à sa taille et cachait presque sa multitude de colliers.
« Je prenais un bain. »
lâcha Elaine, agacée, comme si ce n'était pas visible, avec sa robe de chambre et ses cheveux défaits. Essandé en tremblait presque d'indignation, l'équivalent chez elle d'une crise de fureur aveugle. Un état que n'était pas loin de partager Elaine.
« Et je continuerai dès que vous vous serez retiré, s'il plaît à la lumière que vous le fassiez. »
Prenez ça dans les dents. Quand on faisait irruption chez les autres, on ne méritait pas mieux.
« Que la grâce de la lumière soit aussi avec toi, Elaine Sedai. »
répondit Zaïda, imperturbable. À l'intention d'Avienda, la maîtresse des vagues arqua un sourcil. Pas à cause de l'aura du Saïdar, incapable de canaliser, elle ne pouvait pas le voir. Ni de la nudité de la Yel, puisque le peuple de la mer, une fois au large, loin du regard des continentaux, ne se privait pas de retirer ses vêtements.
« Tu ne m'as jamais invité à prendre un bain avec toi, ce qui aurait été courtois. Mais n'en parlons pas. Je viens d'apprendre que Nesta d'Inreas de Lune est morte, tuée par les Séanchania. Nous pleurons cette perte. »
Les trois femmes touchèrent leur étole, puis portèrent leurs doigts à leurs lèvres. Mais Zaïda semblait aussi agacée par ce rituel qu'Elaine. Désireuse de ne pas perdre de temps, elle entra dans le vif du sujet, avec une brusquerie peu typique du peuple de la mer.
« Les 12 premières des Atan Miré doivent se réunir pour choisir une nouvelle maîtresse des navires. Avec ce qui se passe à l'ouest, il est clair qu'aucun retard ne sera acceptable. »
Chieline fit la moue, et Chanel porta sa boîte à sel à ses narines. Il en monda une odeur assez forte pour couvrir le parfum de rose qui flottait dans la pièce. Quelle que soit la façon dont les deux régentes avaient décrit à Zaïda le phénomène qu'elles avaient capté, cette dernière ne semblait pas du tout mal à l'aise. Montagne d'assurance, elle riva les yeux sur Elaine.
« Nous devons nous préparer à ce qui approche. Et pour ça, il nous faut une maîtresse des navires. Au nom de la Tour Blanche, tu nous as promis 20 formatrices. Je ne peux pas choisir Vandaine à cause de son deuil, ni toi. Mais j'emmènerai Merylil, Sareïta et Caréan. Les 17 autres, la Tour me les doit. Et j'espère qu'elle s'acquittera promptement de sa dette. J'ai fait contacter les Aes Sedai du Signe d'Argent pour savoir si certaines seraient prêtes à partir avec nous. Mais je n'ai pas le temps d'attendre leur réponse. Si la lumière le veut, ce soir, dans le port d'Iliane, je me baignerai avec les autres maîtresses des vagues. »
Elaine lutta de toutes ses forces pour rester impassible. Cette femme venait lui annoncer qu'elle comptait rafler toutes les sœurs présentes à Kaemlyn, sans laisser une seule régente des vents en arrière, semblait-il. La fille héritière en eut le tournis. Jusqu'au retour de Réan, elle devrait compter sur les 7 femmes de la famille capables d'ouvrir un portail, 2 d'entre elles n'étant pas assez puissantes pour qu'une charrette passe par l'ouverture. Sans les régentes des vents, continuer à faire approvisionner Kaemlyn par Liliane et Théar deviendrait au mieux problématique. Et le signe d'argent en plus. Quelque émissaire que Zaïda ait envoyé, les sœurs apprendraient les détails du marché qu'Elaine avait passé avec les Atta Admiré. À coup sûr, Egwene ne la remercierait pas d'avoir exposé au grand jour cette bourde. En si peu de temps, sauf si sa mémoire les jouait un tour, Elaine n'avait jamais essuyé une telle tempête d'ennui.
« Je compatis à ta tristesse, » dit-elle, « et à celle des Atta Admiré. Nesta d'Inreas était une femme hors du commun. »
Très puissante, en tout cas, et dotée d'une forte personnalité. Après leur unique rencontre, la fille héritière s'était réjouie d'être repartie avec sa robe sur le dos. En parlant de ça, elle n'allait pas avoir le temps de s'habiller, car Zaïda risquait de perdre patience. En conséquence, elle noua la ceinture de sa robe de chambre.
« Nous devons parler. Et Sandé, fais apporter du vin pour nos invités et une infusion pour moi. Pas forte. »
Un ajout dû à l'inquiétude qui venait de se déverser dans le lien.
« Dans le petit salon. Te joindras-tu à moi, maîtresse des vagues ?»
Réaction étonnante, Zaïda acquiesça comme si elle s'attendait à cette invitation. De quoi inciter Elaine à repenser à la part du marché qui revenait à la maîtresse des vagues. Des marchés, plutôt. Car il y en avait 2. Et c'était peut-être le point crucial. Personne n'ayant prévu qu'on aurait besoin du petit salon, il y faisait plus que frais, malgré le feu que Séphanie s'empressa d'allumer dans l'âtre avant de se précipiter hors de la pièce. Alors que des flammes naissaient, Elaine et ses invités s'assirent dans les fauteuils disposés en demi-cercle devant la cheminée. Enfin, Elaine et Zaïda prirent place, la fille héritière arrangeant du mieux possible son inélégante robe de chambre. Si la maîtresse des vagues était venue une heure plus tard, elle aurait au moins eu le temps de s'habiller convenablement. Quand Zaïda fut installée, les régentes s'assirent sur sa droite et sur sa gauche. Les poings sur les hanches, bien campés sur ses jambes, Birgit resta debout devant le bureau, l'air fermé. Dans le lien, Elaine sentit que sa championne aurait volontiers tordu 1 ou 2 coups d'Ata Admiré. Avienda s'adossa à une armoire. Quand Essandé lui apporta sa robe de chambre, elle l'enfila distraitement, puis reprit sa pose, les bras croisés. Elle s'était coupée du Saïdar, mais tenait toujours la tortue, prête à s'unir à la source en un éclair. Sous les regards croisés de l'Aïel et de la championne, les Atta Admiré ne bronchèrent pas. Conscientes de qui elles étaient, elles assumaient tout ça avec une aisance déconcertante.
« Le marché promettait 20 formatrices aux Atta Admiré, »
dit Elaine, en mettant l'accent sur ces 2 derniers mots. Selon Zaïda, on lui avait promis des enseignantes, et elle venait chercher son dû. Mais le marché avait été passé avec Nesta d'Inreas, Cela dit, Zaïda espérait sûrement être nommée maîtresse des navires.
Des formatrices compétentes, sélectionnées par la chaire d'Amirline. Je sais que le peuple de la mer tient à honorer sa part du marché, et la tour fera de même. Mais les sœurs qui ont accepté d'enseigner ici, tu le sais, l'ont fait à titre temporaire. En somme, il s'agissait d'un marché distinct de celui qui fut passé avec la maîtresse des navires. Tu l'as reconnu de manière implicite en acceptant que des régentes des vents ouvrent des portails pour permettre l'approvisionnement de Kemlin. À l'évidence, tu ne te serais pas mêlé de nos affaires si tu n'avais pas dû honorer un marché. Si tu pars, tu n'auras plus à nous aider, et nous ne te devrons plus de leçons. Au signe d'argent, je crains que tu ne recrutes aucune formatrice. Donc, les Hata Nire devront attendre que la chaire d'Amirline leur en envoie, selon les termes du marché passé avec la maîtresse des navires.
Elaine regretta de ne pas pouvoir exiger que les Hata Nire restent loin de l'auberge. Mais à quoi bon, puisque le mal était déjà fait? De plus, elle avait du mal à imaginer un prétexte acceptable. Et si son argumentaire ne tenait pas la route, Zaïda se sentirait plus forte, tout simplement. En matière de marchandage, les femmes du peuple de la mer étaient féroces comme des hyènes. Honnêtes, certes, mais sans pitié. Il allait falloir être très prudente.
« Ma sœur te tient par l'oreille, Zaïda d'Inparidé. »
ricana Avienda en se tapant sur la cuisse.
« Elle te suspend même par les chevilles. »
Une punition en vogue chez les Hata Nire que la Yel, pour une raison mystérieuse, trouvait très amusante. Elaine ravala son irritation. Depuis le départ des Boudards, Avienda ne ratait pas une occasion de chercher des noises aux Hata Nire, mais ce n'était vraiment pas le moment. Chanel se rembrunit. Depuis le début, elle était la cible préférée d'Avienda, en particulier lors d'un regrettable incident à base d'Ouskai, le torboyau favori des Aiel. L'aura du Saïdar enveloppa la régente outragée. Même si elle ne pouvait pas voir la lueur surnaturelle, Zaïda, au courant pour l'Ouskai, savait aussi qu'il avait fallu porter Chanel jusque dans son lit, alors qu'elle vomissait tripes et boyaux. La maîtresse des vagues leva une main à l'intention de Chanel. Aussitôt, l'aura se dissipa, mais l'expression de la régente se durcit encore.
« Tu dis peut-être la vérité, »
fit Zaïda, une insulte ou presque, quand on s'adressait à une Aes Sedai.
« Mais dans tous les cas, Merilil n'est pas concernée. Longtemps avant d'arriver à Kemlin, elle a accepté de nous former, et elle viendra avec moi afin de continuer. »
Elaine prit une grande inspiration. Tenter de dissuader Zaïda serait une perte de temps. Si la Tour Blanche était si influente, ça reposait sur sa réputation d'honnêteté et de droiture. En d'autres termes, les sœurs étaient connues pour tenir parole, au même titre que les Hata Nire. Bien sûr, on murmurait qu'il fallait écouter attentivement les promesses d'une Aes Sedai, pour s'assurer qu'elle avait bien dit ce qu'on croyait. Mais une fois donnée, la parole d'une sœur était aussi fiable qu'un serment sous la lumière. De plus, il semblait impossible que les régentes lâchent Merilil. Sinon, elle ne l'aurait pas surveillée en permanence.
« Si j'ai besoin d'elle, tu devras peut-être me la renvoyer. »« Besoin d'elle, parce que Vanden et ses assistantes auront prouvé qu'elle appartient à la Janoire. » Mais si ça arrive, je lui trouverai une remplaçante. Qu'on ne me demande surtout pas qui.
Elle devra finir son année de service. Selon le marché, c'est un minimum.
Zaïda écarta les mains, comme si elle faisait une concession.
D'accord pour une remplaçante. Si elle arrive avant le départ de Merilil. Sinon, je ne la laisserai pas partir.
Disons qu'il en sera ainsi.
Concéda Elaine. Il faudrait bien, puisqu'elle n'avait pas le choix. Zaïda eut l'ombre d'un sourire, et laissa s'éterniser le silence. Chanel bougea les pieds, mais en signe d'impatience, pas parce qu'elle voulait se lever. La maîtresse des vagues ne broncha pas, parce qu'elle voulait quelque chose, par exemple passer un nouveau marché, mais qu'elle entendait laisser Elaine parler la première. La fille héritière décida de jouer au même jeu. Grâce à la flambée, il faisait désormais bien chaud. Pourtant, dans sa robe de chambre humide, elle commençait à avoir la chair de poule. Ignorer le froid, d'accord. Mais comment était-on censé lutter contre le froid et l'humidité? Malgré tout, Elaine soutint le regard de Zaïda et lui rendit son petit sourire. Et Sandé entra, suivi par Naris et Séphanie, chacune portant un plateau. Sur le premier, des tasses en porcelaine du peuple de la mer entouraient une bouilloire d'argent en forme de lion. Sur l'autre, une bonne odeur d'épices montait d'une carafe que jouxtaient plusieurs gobelets d'argent. À part Elaine, qui n'eut pas le choix, tout le monde prit du vin chaud. Sondant son infusion, elle haussa les épaules. On voyait le fond de la tasse, comme si elle avait contenu de l'eau chaude. Encore un effort, et ce serait ce qu'on lui servirait très bientôt. Après réflexion, Avienda vint reposer son gobelet plein sur le plateau, puis elle se servit une tasse d'infusion. Quand ce fut fait, elle sourit à Elaine, comme si elle voulait lui faire gober qu'elle préférait de l'eau vaguement teintée à un bon vin chaud. Sans y songer, Elaine lui rendit son sourire. Après tout, on était première sœur pour le meilleur et pour le pire. Birgit sourit aussi, avant de vider la moitié de son gobelet. Dans le lien, Elaine sentit à quel point son humeur grognonne amusait la championne, dont la tête continuait à pulser aussi fort. Elaine se massa les tempes. Elle aurait dû insister pour que Merylil guérisse l'archère. En matière de thérapie, pas mal de femmes de la famille étaient meilleures qu'elle, mais ici, elle restait la seule sœur à peu près compétente.
« Tu as besoin de femmes capables d'ouvrir un portail, pas vrai ?»
lança soudain Zaïda, sans daigner sourire. Elle détestait s'exposer en parlant la première. Sirotant son substitut d'infusion, Elaine resta muette.
« Il se pourrait, plaise à la lumière, que je laisse une ou deux régentes des vents ici, provisoirement. »
Le front plissé, Elaine fit mine de réfléchir. Il lui fallait des fichues régentes, et pas qu'une ou deux.
« En échange de quoi ?»
demanda-t-elle enfin.
« D'un terrain au bord du fleuve Erinine. Une demi-lieue carrée. De la bonne terre, surtout, pas un marécage. Un petit territoire qui appartiendra pour toujours au Hatan Mire et qui sera placé sous nos lois, pas celle d'Andorre. »
Cette dernière énormité énoncée comme s'il s'agissait d'un détail sans importance. Elaine s'étrangla avec sa boisson. Détestant quitter la mer, les Hatan Mire dépérissaient dès qu'ils ne pouvaient pas au moins la voir. Et Zaïda revendiquait un bout de terre à 400 lieues d'une étendue d'eau salée en prétendant en faire un territoire du peuple de la mer? Des Kairieniens, des Mourandiens et même des Altariens s'étaient cassés les dents en tentant de s'approprier des fragments d'Andorre. Et pour les en empêcher, les Andoriens étaient morts. Cela dit, une demi-lieue carrée, ça n'était pas bien grand. Surtout pour que Kemlin reste approvisionné. Bien entendu, il n'était pas question de laisser deviner ça à Zaïda. Si le peuple de la mer commerçait directement en Andorre, les produits andoriens pourraient voyager dans les cales des bateaux à Hatan Mire, se répandant ainsi dans le monde entier. Zaïda en avait sans doute conscience, mais là encore, inutile de lui mâcher le travail. Dans le lien, Birgit suggérait la prudence à la fille héritière. Mais parfois, il fallait prendre des risques. Une héroïne aurait dû le savoir.
« Une fausse route !»
s'excusa la fille héritière quand elle eut cessé de tousser.
« Pour une demi-lieue carrée de terre andorienne, il me faut plus que deux régentes. Pour nous avoir aidés à utiliser la coupe des vents, le peuple de la mer a obtenu 20 formatrices au moins, qui seront remplacées lorsqu'elles partiront. Zaïda, tu as 21 régentes avec toi. Pour tant de terres andoriennes, je devrais les avoir toutes, avec des remplaçantes si elles s'en vont. Et ce, tant que des Aes Sedai formeront des Hatan Mire. »
Pour indiquer qu'il ne s'agissait pas d'un refus alambiqué, Elaine ajouta.
Bien entendu, les droits de douane traditionnels s'appliqueront à tous les produits Hatan Mire qui passeront de votre territoire en Andorre.
Zaïda porta son gobelet à ses lèvres, puis elle le baissa et sourit. De soulagement, pas de triomphe, aurait juré Elaine.
Les biens qui passeront en Andorre, mais pas ceux qui entreront chez nous en venant du fleuve. Bon, disons 3 régentes pendant 6 mois, à condition qu'elles ne combattent pas. Mes régentes ne mourront pas pour toi, et je refuse que d'autres Andoriens nous détestent parce que nous aurons tué leurs frères d'armes.
Des portails et rien que des portails,
jura Elaine.
Mais chaque fois que je demanderai.
Par la lumière, comme si elle avait eu l'intention d'utiliser le pouvoir dans un conflit. Si les Hatan Mire le faisaient sans y penser, elle s'efforçait d'obéir aux consignes des Gwen, exactement comme si elle avait prononcé les 3 serments. De toute façon, si elle détruisait les camps adverses, dehors avec le Saïdar, ou si elle laissait quelqu'un le faire à sa place, toutes les maisons andoriennes lui tourneraient le dos.
« Que ça prenne 6 mois ou plus, elles devront rester jusqu'à ce que la couronne soit mienne. »
Elaine serait sûrement sur le trône plus vite que ça, mais comme aurait dit Lini, on comptait les prunes dans son panier, pas sur les branches du prunier. Une fois la couronne sur sa tête, elle n'aurait plus besoin de régente pour approvisionner la ville. Et pour être franche, elle se réjouirait de les voir partir.
« Mais 3, ce n'est pas assez. Tu auras Chieline, puisqu'elle est ta régente des vents. Mais je garderai les autres. »
Zaïda secoua la tête, faisant osciller les médaillons de sa chaîne d'honneur.
« Talan et Metara sont encore des apprentis. Elles devront suivre leur formation. Les autres aussi ont des missions. 4, voilà ce que je te propose. »
Bien. Il n'y avait plus qu'à marchander jusqu'au bout. En fait, Elaine n'avait jamais cru qu'elle aurait les apprentis, ni les régentes liées à des maîtresses des vagues. Ces femmes-là prenaient leur régente et leur maître de l'épée comme conseillers. Les en privé revenaient à lui demander de se séparer de Birgit. Zaïda essaya de resquiller en excluant les régentes qui servaient sur de grands navires, mais la ficelle était trop grosse, et Elaine refusa de revoir ses prétentions à la baisse. À Zaïda de réviser son offre à la hausse. Hatan Mire s'y résigna lentement, luttant d'arrache-pied sur chaque concession. Lentement, oui, mais moins qu'Elaine le redoutait. À l'évidence, elle avait autant besoin de ce marché que son interlocutrice, et ça facilitait bien des choses.
Au nom de la lumière, marché conclu,
put enfin annoncer Elaine. Embrassant les doigts de sa main droite, elle se pencha pour les poser sur les lèvres de Zaïda. Très impressionnée, Avienda sourit. Si Birgit ne broncha pas, Elaine sentit dans le lien qu'elle n'en revenait pas. Sentirait si bien face à une atta admirée.
Marché conclu, sous la lumière,
souffla Zaïda. Bien qu'elle n'ait pas touché un filin depuis des années, elle posa sur les lèvres d'Elaine des doigts au bout calleux. Après avoir concédé 9 des 14 régentes susceptibles de rester, elle semblait bien satisfaite.
Parmi ces femmes, se demanda Elaine, combien servaient sur des navires coulés par les Séanchaniens à Eboudar. Chez les Atta admirés, perdre un bateau était une faute grave, qu'importait la raison, et on n'avait peut-être pas envie de revenir vite chez soi après ça. Aucune importance. Pour Elaine, c'était une bonne affaire. Les mains posées sur les genoux, Chanel semblait morose. Moins qu'on s'y serait attendu pourtant pour une Atta admirée condamnée à rester plus longtemps sur le plancher des vaches. Chargée de commander les régentes qui resteraient, elle détestait être placée sous l'autorité d'Elaine et de Birgit, une autre concession de Zaïda. Désormais, on ne verrait plus d'Atta admirée déambuler dans le palais comme s'il leur appartenait et donner des ordres à tout le monde. Cela posé, Elaine aurait juré que Zaïda était entrée dans sa chambre en sachant qu'elle devrait laisser des régentes derrière elle, et Chanel en ayant appris qu'elle les commanderait. Là encore, aucune importance. Idem pour les avantages que Zaïda espérait tirer de ce marché dans sa quête du titre de maîtresse des navires. Elle en tirerait, c'était certain, mais l'essentiel restait que Kemlyn ne crèverait pas de faim. Oui, c'était ce qui comptait, avec le fichu phare qui brillait toujours à l'ouest. Non, lui n'importait pas tant que ça, en fait. Destinée à devenir reine, Elaine ne pouvait pas se permettre de penser à ces choses-là. Tout ce qui comptait, c'était Kemlyn et le royaume d'Andorre.